Ça s'était passé les 23 et 24 septembre 1943. Je veux parler de la liquidation du ghetto de Vilnius en Lituanie. Immersion dans la culture israélienne, je vous amènerai au musée, pas n'importe lequel, à nous, anciennement, musée de la diaspora à Tel Aviv. Leonard Cohen et la guerre de Yom Kippour. Chypre a honoré le président du comité juif américain, M. David Harris. Le président de Chypre lui a remis l'un des prix les plus prestigieux de son pays, le président de Chypre, qui s'appelle Nikos Anastadiades. Je vous ferai des révélations sur l'élimination du père du programme nucléaire iranien. Dans cette fameuse affaire qui a défrayé la chronique, l'affaire des sous-marins, Israël va-t-il bénéficier de l'échec de la France en Australie? Un an après les accords d'Abraham, le Bahreïn s'ouvre à la communauté juive. Le monde entier s'en rappelle, bien évidemment. C'était le 13 septembre 1993, la poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Voilà, avant de développer toute cette petite nouvelle, bien sûr, je vous propose de la musique. Et c'était Sarit Haddad. Alors, les Pays-Bas ont donc inauguré leur premier monument national à la mémoire des victimes de la Shoah. Le monument, conçu par l'artiste Daniel Nibeskind, qui a lui-même perdu des proches dans la Shoah, est un labyrinthe de murs de briques qui, vu d'en haut, forme les lettres hébraïques indiquant en souvenir. Un monument répertoriant les 102 163 victimes néerlandaises du régime nazi a donc été inauguré dimanche par le roi Willem-Alexander à Amsterdam, soit le premier mémorial national à être érigé aux Pays-Bas. Le monument conçu par l'artiste Daniel Libeskind, qui a lui-même perdu des proches dans la Shoah, est un labyrinthe de murs de briques, donc chaque pierre porte le nom d'une personne de confession juive ou d'origine rome, déportée des Pays-Bas et morte dans les camps de concentration nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit ainsi du premier mémorial à commémorer toutes les victimes néerlandaises en un même endroit. La plupart de la population juive des Pays-Bas a été, je vous le rappelle, déportée pendant l'occupation allemande. C'est une page noire de l'histoire de notre pays qui nous oblige à nous demander ce qui aurait dû être fait pour l'empêcher et à réaliser que même de nos jours, l'antisémitisme n'est jamais loin. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre néerlandais, M. Mark Rutte. Daniel Libeskind, qui a également supervisé le plan directeur du mémorial de Ground Zero à New York, érigé en l'honneur des victimes du 11 septembre, s'est dit bouleversé de voir ce monument inauguré dans la capitale néerlandaise, soulignant qu'il s'agit d'un avertissement pour nous tous de ce qui peut arriver dans les sociétés dites civilisées. La construction du mémorial a connu plusieurs années de retard en raison de différends concernant son emplacement ainsi que sa conception. D'un coût total de 15 millions d'euros, le monument a été financé conjointement par des dons privés et plusieurs municipalités, dont celle d'Amsterdam. Les autorités soudanaises veulent apparemment fermer la page de l'ère Omar el-Bashir et redorer le blason de cet État qui faisait partie de la liste des États terroristes, en tout cas jusqu'à l'année passée. Dans une décision sans précédent, le gouvernement de transition a donc décidé de confisquer tous les biens appartenant au Hamas dans le pays, notamment des hôtels, des terres et des sociétés, ce qui donne déjà une idée de la richesse de cette organisation terroriste qui quémande constamment l'aide internationale et maintient sa population dans la misère. Les autorités soudanaises ont également gelé tous les avoirs et transferts bancaires liés au Hamas et à ses membres qui vivent au Soudan. Par ces décisions, le pouvoir soudanais veut se démarquer des frères musulmans qui étaient alliés de l'ancien président Omar el-Bashir. Il y a deux jours, je vous le rappelle, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé la mise en échec d'un coup d'État tenté par des militaires partisans de l'ancien président destitué, je vous le rappelle, en 2019. Interdiction de quitter Israël durant 12 mois, les contrevenants à la quarantaine et à ceux qui ne respectent pas l'interdiction de voyager vers les pays rouges s'exposent donc à une nouvelle sanction, à savoir une interdiction de voyager à l'étranger pendant 12 mois. Cette initiative a été prise par la ministre de l'Intérieur, Mme Ayelet Shaked. Cette dernière a l'intention de présenter son plan de lutte contre les contrevenants lors de la réunion du cabinet sur le coronavirus. Toutes personnes qui sont rentrées au pays et ont violé la quarantaine, y compris les enfants, Mme Shaked propose non seulement d'imposer une amende de 7 500 shekels, mais aussi de les priver du droit de quitter Israël durant un an. La même chose, à son avis, devrait être faite avec ceux qui sont partis pour un pays interdit sans l'autorisation d'une commission spéciale. Selon Mme Shaked, la procédure devrait être très simple. Les données sur les contrevenants seront transférées au département du ministère de l'Intérieur pour l'enregistrement de la population et ils ne seront pas autorisés de quitter le pays lors du contrôle des passeports. C'est parfaitement acceptable. Si vous partez à l'étranger et violez les ordres du gouvernement, vous devrez payer pour cela, a expliqué Ayelet Shaked. Elle a encore déclaré qu'une mesure aussi sévère serait particulièrement pertinente durant les vacances scolaires, lorsque les familles voyagent à l'étranger avec des enfants non vaccinés. Ils reviennent et infectent leurs amis. Une telle démarche restreint bien évidemment considérablement la liberté de mouvement et il est peu probable qu'elle reçoive l'approbation d'un conseiller juridique du gouvernement. Il ne fait aucun doute que les citoyens et les organisations de défense des droits humains déposeront une requête auprès de la Cour suprême qui a déjà prouvé l'année dernière qu'elle veille au respect des droits humains fondamentaux, dont le droit précisément de circuler. Ainsi, en mars, les juges ont ordonné à l'État d'abolir toutes les restrictions quantitative à la sortie et à l'entrée des citoyens en Israël. Ils ont alors décidé que la restriction d'entrée dans le pays de 3000 citoyens ainsi que la restriction de sortie n'était pas légale malgré les tentatives de l'État de justifier ces mesures par une menace épidémiologique. Ces restrictions portent atteinte aux droits constitutionnels même des citoyens d'entrer et de sortir de leur pays ainsi qu'à d'autres droits qui font partie intégrante de la vie dans une société démocratique, a déclaré le verdict. Affaire à suivre. Vous aurez peut-être reconnu Boublitschki avec à la clarinette Giora Feidman. Cela s'est passé les 23 et 24 septembre 1943. Je veux parler de la liquidation du ghetto de Vilnius en Lituanie. Vilna, aujourd'hui Vilnius, quelquefois appelé la Jérusalem du Nord, était l'un des centres culturels les plus importants de la vie juive dans le monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, le ghetto de Vilnius comptait environ 40 000 personnes. Une première tentative de liquidation du ghetto eut lieu entre septembre 1941 et janvier 1942 par la déportation et l'assassinat d'une première vague d'habitants du ghetto, notamment les personnes malades ou âgées. C'est le 21 juin 1943 qu'Heinrich Himmler prit la décision de liquider les ghettos dans les territoires des pays baltes. Et durant l'été, les SS commencèrent le transfert des occupants du ghetto dans des camps de travail en Estonie et dans des camps d'extermination en Pologne. Mais le ghetto de Vilna fut définitivement liquidé entre les 23 et 24 septembre 1943. De 8 000 à 10 000 survivants du ghetto furent rassemblés. Parmi eux, quelques milliers furent envoyés dans des camps de travail. D'autres, les personnes âgées, femmes et enfants, furent envoyées à Sobibor. Aucun ne revint. Quelques centaines d'autres furent emmenés dans la forêt de Ponari avant d'être fusillés. La communauté juive de Lituanie fut l'une des plus impactées par la Shoah en Europe. Des 265 000 individus qui la composaient en juin 1941, 254 000 furent assassinés durant la Seconde Guerre mondiale, soit 95% de la communauté juive de Lituanie. Immersion à présent dans la culture israélienne, je vous amène au musée, pas n'importe lequel, Anou, c'est son nom, anciennement le fameux musée de la diaspora à Tel Aviv. Nouvelle approche, nouveau contenu, plateforme technologique de pointe, mais toujours l'objectif de dérouler l'histoire du peuple juif de l'exil à Babylone à nos jours, de célébrer son pluralisme et de promouvoir son unité, car même si nous sommes physiquement dispersés dans le monde entier, nous ne sommes pas définis par l'endroit où nous vivons, nous faisons tous partie de la même histoire. Ouvert après des travaux de rénovation de tout de même 100 millions de dollars, le musée du peuple juif Anou, ANU, présente des cultures juives vibrantes à travers des artefacts ou encore des œuvres d'art. La guitare, par exemple, utilisée par Leonard Cohen lors de son dernier concert en Israël en 2009, un collier en dentelle distinctif qu'aimait porter Ruth Bader Ginsburg et un rouleau du livre d'Esther datant du XVe siècle, conçu dans l'Espagne pré-Inquisition, se partagent une partie du vaste espace ouvert du musée du peuple juif ANOU, ANU, qui vient de rouvrir ses portes, musée dont la raison d'être est de présenter l'histoire vibrante du peuple juif à travers le monde. Le musée, qui était connu sous le nom de Musée de la Diaspora ou Bet Hatzotzot, a ouvert mardi dernier sur le campus de l'Université de Tel Aviv. Après des travaux de rénovation qui ont coûté 100 millions de dollars, je vous l'ai dit, le musée en a profité pour multiplier par 3 sa surface en passant à presque 7000 mètres carrés. Pardon. Les 3 étages du nouveau musée présentent un mélange grisant d'artefacts historiques saisissants, de présentations numériques interactives et d'œuvres d'art originales. Alors si vous pas vous-même à Tel Aviv, n'oubliez pas de vous rendre dans ce musée. En 1973, quand le chanteur Leonard Cohen apprit que la guerre avait éclaté en Israël, eh bien, il fit carrément sa valise et vint chanter pour les soldats au front. Le livre « Who's on Fire » du journaliste Matti Friedman relate cette époque qui a profondément marqué l'artiste, sa vie et ses chansons. Leonard Cohen avait 39 ans et peu de temps avant d'avoir son premier enfant, il avait senti sa créativité s'engourdir. Puis la guerre éclata en Israël. Leonard fit une valise et pensait aller se battre contre les Égyptiens ou bien encore travailler dans un kibbutz. Mais il finit par chanter pour les soldats, principalement au front, dans les profondeurs du Sinaï pendant des bombardements incessants alors que l'odeur de la mort flottait dans l'air. De nombreux artistes israéliens et étrangers se sont aussi mobilisés pour effectuer bénévolement des tournées à l'arrière du front afin de doper le moral des troupes. Et Leonard Cohen en fit partie. La tournée de ce dernier pendant la guerre de Yom Kippour relève de la mythologie israélienne et peu de détails sont connus à ce sujet. Leonard Cohen en a à peine parlé de cette expérience, mais cela l'a profondément marqué car elle se reflète dans les textes perdus trouvés lors de sa succession, au cours aussi de sa vie et dans ses poèmes. Des soldats israéliens ont entreaperçu Cohen, poussiéreux, épuisé, secoué par le choc et la terreur de la guerre de Yom Kippour. Des soldats après un quart à une station radar, des pilotes revenant d'une attaque, des patrouilleurs revenus sans prisonniers, des médecins dans des hôpitaux de campagne. Et soudain, ils entendirent la célèbre Suzanne et une nouvelle chanson écrite pendant la guerre, Lover, Lover. Dans Who's on Fire, Matti Friedman raconte l'histoire dramatique d'un artiste extraordinaire qui entretenait une relation complexe avec ses racines et son identité juive. Leonard Cohen se sentait profondément juif. Son grand-père était rabbin et plus jeune, il avait longuement étudié la Torah et le Talmud. Il retournait ainsi à l'endroit où est née la connexion unique de Leonard Cohen avec l'État d'Israël.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah, hallelujah,
was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
C'était bien évidemment Leonard Cohen avec cette merveilleuse chanson « Hallelujah ». Le président de Chypre, M. Nikos Anastasiades, vient de remettre l'un des prix les plus prestigieux de son pays au président du comité juif américain, l'AJC, M. David Harris. À la tête de l'AJC depuis plus de trois décennies, votre rôle a été absolument déterminant dans l'orientation de l'évolution de la collaboration solide de votre prestigieuse organisation avec Chypre et l'expansion des liens chypriotes avec Israël et les États-Unis, a déclaré le président chypriote. Grâce à votre droiture, votre résilience et votre créativité, vous avez réussi à promouvoir une coopération pratique et concrète entre de nombreux pays de la Méditerranée orientale et à faire progresser un partenariat stratégique entre Chypre, la Grèce, Israël et les États-Unis qui partagent tous votre vision d'une région pacifique et prospère, a-t-il poursuivi. Monsieur David Harris, qui visite Chypre depuis les années 1980, a bien sûr exprimé sa gratitude pour cet honneur. Chypre est un partenaire précieux, voire essentiel d'Israël, des États-Unis et du peuple juif, a déclaré Monsieur Harris. Il a souvent rencontré le président Anastasiades au cours des 8 dernières années, tant à Chypre qu'aux États-Unis. Monsieur Anastasiades s'est adressé au Forum mondial de la AJC en 2017 et a reçu le prix Light Unto the Nation de l'AJC en 2016. Le président a donc salué M. Harris pour la reconnaissance mondiale de votre travail extraordinaire dans la défense des droits de l'homme et de la dignité et dans la lutte contre l'intolérance, l'antisémitisme, la discrimination et la haine de toute forme. Il a également salué le leadership de M. Harris dans la recherche d'une fin à l'occupation turque de la partie nord de Chypre qui dure maintenant depuis 47 ans et d'une réunification de la nation insulaire. Le gouvernement et le peuple de la République de Chypre vous sont redevables de votre soutien indéfectible à nos efforts pour parvenir à un règlement global et viable de la question chypriote, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, encore déclaré le président chypriote. Des représentants d'organisations chypriotes et helléniques aux États-Unis, ainsi que des officiels grecs, israéliens et américains, ont assisté à la cérémonie de remise du prix. Nous nous félicitons que le président chypriote, M. Nikos Anastasiades, ait choisi David Harris pour recevoir ce prix prestigieux. En tant que l'un des principaux esprits de notre nation en matière de politique étrangère, M. Harris a considérablement élevé le statut international de la République de Chypre. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council. À une époque antérieure, un éminent juif américain, le député Ben Rosenthal, président de la sous-commission Europe de la Chambre des représentants pour les affaires étrangères, a joué un rôle profond dans l'histoire de Chypre. C'est également le cas de David Harris aujourd'hui. Tout comme M. Rosenthal a joué un rôle déterminant dans l'imposition par l'Amérique d'un embargo sur les armes à destination de la Turquie après l'invasion et l'occupation de Chypre. David Harris a donc contribué à la compréhension par l'Amérique et Israël du rôle extrêmement précieux et de soutien de Chypre dans la région instable de la Méditerranée orientale. Monsieur Handy Manatos, un leader helléno-américain de longue date, a également félicité Monsieur Harris pour avoir reçu le prix qui porte le nom du premier président de Chypre. Pendant près de 4 décennies, Chypre et les Chypriotes grecs du monde entier ont eu la chance de bénéficier de la philia ou amitié avec David Harris. Les contributions de David à cette amitié ont été nombreuses, a encore déclaré Monsieur Manatos. Enfin, il a reconnu dès le départ le potentiel de l'amitié tant en Méditerranée orientale qu'au sein des communautés grecques et juives américaines. Il n'a jamais permis à Chypre de faire cavalier seul et a soutenu des initiatives marquantes telles que la création de l'Alliance helléno-israélienne du Congrès et la loi sur la sécurité et le partenariat énergétique en Méditerranée orientale. Chypre est certainement mieux lotie grâce à cette amitié, cet honneur, et c'est une façon appropriée de dire merci. Décrit par le défunt président israélien Shimon Peres comme le ministre des Affaires étrangères du peuple juif, David Harris a été décoré par des gouvernements étrangers plus que tout autre dirigeant d'organisation juive dans l'histoire américaine. Outre Chypre, il a également été honoré, parfois à plusieurs reprises, par les gouvernements d'Azerbaïdjan, de Belgique, de Bulgarie, de France, d'Allemagne, de Grèce, d'Italie, du Japon, de Lettonie, de Moldavie, de Pologne, d'Espagne et d'Ukraine pour ses efforts internationaux en matière de défense des droits de l'homme, de promotion du partenariat transatlantique et de dévouement au peuple juif. Et voilà, je vous propose donc un autre morceau de musique, Shalom Hanor. בתוך עצמו גם
זה כבר לפעמים סופה עוברת וביתו נשבע אבל אבל לרוב אדם גם לעצמו הוזר ואת ואת כמה טוב שבאת בלעדייך וקבעית והלילה כאן אז אני שומר עליי כמה שאפשר ועם כל זאת האם נמצא אותך מחר אדם קרוב אצל עצמו אדם בתוך עצמו הוא גר na 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 adam betokh atsmo gan betokh atsmo gan lifamin matkhuv omaru lifamin hushar lifamin potakh delet lekabel makam אדם בתוך עצמו נזכר ואת ואת כמה טוב שבאת בלעדייך ריק הבית והלילה קר אז אני שומר עליי כמה שאפשר ועם כל זאת העיר נמצא אותך מחר אדם קרוב אצל עצמו אדם בתוך עצמו הוא גר אדם בתוך עצמו הוא גר בתוך עצמו לפעמים עצוב אומר הוא לפעמים הוא שר לפעמים פותח דלת לקבל מכה אבל אבל לרוב אדם בתוך עצמו la 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 פעמים עצוב אמר
Un an après les accords d'Abraham, le Bahreïn s'ouvre à la communauté juive. Après 74 ans de fermeture, la synagogue de Manama, la capitale du Bahreïn, vient donc de rouvrir ses portes et accueille de nouveau des cérémonies. Cet événement marque une étape dans la visibilité croissante de la communauté juive du pays, largement aidée par les accords de paix signés il y a tout juste un an avec Israël. Il y a un an, donc c'était le 15 septembre 2020, Israël signait des traités de paix avec les Émirats arabes unis d'une part et avec le Bahreïn d'autre part. Pour les États-Unis de Donald Trump, ces traités appelés accords d'Abraham étaient un succès diplomatique majeur, l'ancien président américain en étant le parrain. La cérémonie de signature avait d'ailleurs eu lieu à la Maison-Blanche à Washington. Si ces accords ont marqué un tournant sur la scène internationale, ils ont également permis des conséquences concrètes pour les Juifs des pays concernés. À Manama, la capitale du royaume du Bahreïn, une synagogue a ainsi récemment ouvert ses portes, une première alors que depuis 1947 et la guerre civile en Palestine mandataire, prologue du conflit israélo-palestinien, les Juifs de ce petit pays du Golfe devaient prier à huis clos. Pour Ebrahim Nono, juif bahreïni ou bahreïnien, et président de l'Association des communautés juives du Golfe, il s'est confié à l'agence France Presse. Il s'agit d'un effet direct des accords d'Abraham qui ont tout ouvert. Nous pouvons développer la vie juive à Bahreïn parce que nous avons une synagogue pleinement fonctionnelle, s'est réjoui le responsable communautaire âgé d'une soixantaine d'années. Nous avons la possibilité d'amener les juifs à la synagogue et nous voulons qu'ils viennent régulièrement. Pour le rabbin Eli Abadi, responsable spirituel de l'Association des communautés juives du Golfe, les accords de paix avec Israël permettent ainsi une époque très excitante et de célébrer plus ouvertement des étapes importantes de la vie juive. Le mois dernier, par exemple, un jeune juif a ainsi pu faire sa bar mitzvah à Manama, ce qui n'était pas arrivé depuis 2005. Pour l'occasion, des diplomates et des juifs des pays voisins se sont joints à la célébration. Et toujours pour Ebrahim Nono, cette bar mitzvah symbolisait une affirmation de la croissance continue de la vie juive dans la région. C'est d'ailleurs cette visibilité grandissante de la communauté juive qui a motivé la création en février dernier de l'Association des communautés juives du Golfe. Les pays du Golfe ont beaucoup soutenu la croissance de la vie juive, mais à mesure que de plus en plus de personnes s'installent et viennent visiter, nous devons répondre aux besoins éducatifs, expliquait alors le rabbin Eli Abadi. D'autant qu'avec les accords d'Abraham, les Israéliens peuvent désormais venir plus facilement au Bahreïn et aux Émirats arabes unis, voire même s'y installer. Seule communauté juive indigène du Golfe, selon ses propres mots, la communauté de Bahreïn est composée de descendants de juifs irakiens arrivés à la fin du 19e siècle. Si elle a pu compter jusqu'à environ 1500 membres, elle a drastiquement chuté après 1947 et le début des conflits israélo-palestiniens. Cette année-là, la synagogue de Manama avait d'ailleurs été saccagée. Aujourd'hui, les Juifs du Bahreïn ne sont plus qu'une petite cinquantaine.
אותך אוהב הלילה דמדומים ומנגינות והמתנה שלי הלילה להיותן האכזבות אותך רוצה הלילה אין לי יפות הלילה מתה ונשמה רק אותך רוצה הלילה
Boa Sharabi avec Atli Laila. Je vous parlais il y a quelques instants des accords d'Abraham. Alors, le monde entier se rappelle ce qui s'est passé le 13 septembre 1993. La poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Cela n'avait pas donné grand-chose, les protagonistes n'étant sans doute pas mûrs pour aller plus loin. Le 13 septembre 1993, après plusieurs mois de négociations secrètes, les accords d'Oslo sont signés à Washington par Shimon Peres et un haut responsable de l'OLP, Mahmoud Abbas, en présence du président Bill Clinton, de Yasser Arafat et d'Yitzhak Rabin. Le gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de l'OLP, représentant le peuple palestinien, sont d'accord qu'il est temps de mettre fin à des décennies de confrontations et de conflits, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques mutuels, de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et d'aboutir à un accord de paix juste, global et durable. C'est ce que déclarait le préambule du texte. Shimon Peres est alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Yitzhak Rabin. C'est lui qui est chargé de négocier dans le plus grand secret les accords d'Oslo entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Mais les héros du jour sont Yasser Arafat et Yitzhak Rabin sous l'œil du président Bill Clinton. Monsieur Arafat tend la main, Monsieur Rabin tend l'UN. Poignée de main historique. Pour la première fois, Israël et l'OLP signent un accord créant l'espoir d'une paix globale au Proche-Orient après 45 ans de conflit, malgré les critiques d'opposants des deux parties et de certains pays arabes. Un an plus tard, les trois artisans des accords d'Oslo, le chef de l'OLP Yasser Arafat, le premier ministre israélien M. Yitzhak Rabin et son ministre des Affaires étrangères Shimon Peres ont obtenu le prix Nobel de la paix. Et le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné. Il meurt sous les yeux pleins de tristesse de millions d'Israéliens qui voient s'évanouir les promesses d'une paix. Charles Aznavour était un grand ami du peuple juif. C'est pourquoi il a écrit cette belle chanson sur Jérusalem.
De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te dessine Yerushalayim. De loin en loin, tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, elle sait les migrants dont les yeux brûlants s'ouvrent à l'écho de ton nom. Au-delà les mers, souvent à travers d'hostiles et dures régions, j'étais venu ma vie des pieds nus à toi. Me garder, tu as cloué l'amour dans ma poitrine. Yerushalayim, où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer.
Parlons à présent de cette affaire qui a défrayé la chronique, l'affaire des sous-marins, qui a déchiré la France, les États-Unis, l'Australie et même le Royaume-Uni. Alors Israël va-t-il bénéficier de l'échec de la France en Australie? Un récent rapport intitulé « Le marché mondial des systèmes de sécurité maritime » donne le nom de l'entreprise israélienne qui va certainement bénéficier de l'élimination de la France en Australie. Il s'agit de Israel Aerospace Industries. L'ex-président Rivlin a visité l'Australie en février 2020. Je ressens beaucoup d'excitation à l'idée de me rendre en Australie pour la première fois en tant que président, avait déclaré M. Rivlin avant son départ. Les relations entre Israël et l'Australie sont bien établies et ce sont des relations très fortes. Elles se basent sur des valeurs partagées, sur une amitié réelle qui comble la distance énorme qui nous sépare, pas seulement des pays, des océans ou des créneaux horaires, mais également nos cultures et nos traditions, avait-il ajouté. Affaire à suivre. Et voilà, maintenant je vous propose une autre belle chanson qu'on n'entend plus tellement souvent. Inch'Allah, c'était Salvatore Adamo.
J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché, vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes, ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour eux ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah,
épouse, son ami, qui reposait sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guettait la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah. Sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah.
Et je terminerai cette émission par des révélations sur l'élimination du père du programme nucléaire iranien. En effet, le New York Times a publié un article qui fait beaucoup de bruit, dans lequel il apporte de nouveaux éléments sur l'opération menée en novembre 2020 contre Mohsen Fakhrizadeh, l'ingénieur qui fut à l'origine du programme nucléaire iranien. Selon le grand quotidien américain, des agents iraniens ont aidé le Mossad en installant un appareil robotique de tir sur une camionnette placée ensuite au bord du chemin sur l'itinéraire que devait emprunter l'ingénieur. Cette machine, capable de tirer 600 balles par minute, était reliée par satellite à un ordinateur situé à des milliers de kilomètres du lieu de l'attaque. Le New York Times souligne également l'utilisation d'intelligence artificielle et de plusieurs caméras optiques pour cette opération périlleuse. Il révèle aussi que la camionnette était bourrée d'explosifs afin que l'appareil de tir soit détruit après son utilisation. Mais l'explosion l'a éjecté intact du véhicule au lieu de le détruire, ce qui a permis aux Iraniens de mieux comprendre ce qui s'était passé. Ces nouvelles révélations infirment certaines thèses qui avaient fait état de plusieurs individus sur place qui auraient tiré à bout portant sur Mohsen Fakhrizadeh. Celui qui voulait être le père de la bombe atomique iranienne était dans le viseur d'Israël depuis 14 ans. En 2008, l'ancien premier ministre Ehud Olmert avait fait écouter au président américain George W. Bush un enregistrement dans lequel on entendait clairement Mohsen Fakhrizadeh confier à un ami qu'il comptait fabriquer une tête nucléaire, ce qui est un démenti flagrant à toutes les dénégations des dirigeants iraniens sur les objectifs exclusivement civils du programme nucléaire. Enfin, lors de la fameuse conférence de presse de 2018 où l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait révélé la stupéfiante opération du Mossad en plein centre de Téhéran, il avait cité le nom de Mohsen Fakhrizadeh en précisant bien « Souvenez-vous bien de ce nom » et je pense qu'il avait raison. Et voilà, c'est sur cette information que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures et que je vous retrouverai bien sûr vendredi prochain, même heure, même chaîne. Entre-temps, je vous souhaite bien sûr Chag Sameach, avec la fin des fêtes de Sukkot, Shabbat Shalom et Hagit Shabbos.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
You know I got your number, number all night. Fix it for you. But instead I'll be right.